Bonsoir. Ça va? Pas trop fatigué? Vous avez encore de l'énergie? Je vais prier avant de commencer. Merci notre Père pour ce temps qu'on peut passer ensemble autour de ta parole. On te prie de nous laisser concentrer autour de ce que tu vas nous dire ce soir. Ouvre nos cœurs, notre esprit, notre compréhension, et que ça puisse percuter notre quotidien à chacun. Amen. Ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. J'arrive. Est-ce que vous connaissez ça? Vous savez ce que c'est? Qui ne sait pas ce que c'est? Bon, ça va, jusqu'ici tout va bien, on est à Grenoble, hein? Un baudrier, voilà, donc vous enfilez ça comme un pantalon en fait, hein? Et puis une corde. Est-ce que, qui n'est jamais descendu en rappel avec ce genre de choses? Voilà, donc j'explique un petit peu, hein? Vous avez ça autour des jambes, et puis il y a une corde qui est accrochée par le haut, et donc vous accrochez le baudrier sur la corde. Donc ça se passe ici, là, ce qu'on appelle un ponté, là. Voilà. Vous accrochez ça dessus. Et ensuite, eh bien, vous vous asseyez dans le baudrier. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire que la première fois où vous essayez ça, non, ça vous parle peut-être à certains, hein, vous avez le vide en dessous de vous, là, et puis on vous dit, mais allez-y. Allez-y. Mais pourtant, je veux dire, vous êtes accroché, quoi, hein, c'est bon, là. C'est particulier, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous asseyez dans le baudrier, vous ne le sentez pas vous prendre. Parce qu'il y a un peu de mou. Et puis la corde, elle est un peu élastique. Donc il y a quelques centimètres sur lesquels vous laissez aller dans le vide. Vous allez me dire, on n'est pas venu pour un cours d'escalade. On va en reparler, d'accord? Aujourd'hui, on va s'intéresser à un texte qui est hyper connu, un monument de la Bible, qui a aussi forcément fait beaucoup parler, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le récit de Noé. Alors forcément, vu qu'il est très connu, on a aussi beaucoup un peu d'idées préconçues, d'images d'Épinal un petit peu autour du récit de Noé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir les grands mouvements de ce récit et ce qui se passe entre une créature et un créateur et une relation entre les deux qui est compliquée. Je vous propose de commencer par un survol de ce qui se passe juste avant. C'est simple, vous prenez vos Bibles qui sont devant vous dans les bancs, première page, début du texte, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est Dieu qui crée l'univers et ses habitants. Et qu'est-ce qu'on retient du chapitre 1, versets 27 et 28 ? La créature existe, Dieu l'a créée, au milieu d'un univers bon. Hein, Dieu constate, c'était très bon. Et le Créateur révèle à la créature le but de son existence. C'est quoi ? C'est « Je suis créé à l'image de Dieu et je dois remplir la terre ». Remplir la terre de l'image de Dieu, remplir la terre des qualités, des valeurs de Dieu. Voilà le but de mon existence pour la créature. Ok ? Chapitre 2. L'être humain choisit la rupture. C'est la fameuse chute. Il fait le choix de la rébellion. Et comme résultat, ben, il récolte le fait que Dieu respecte son choix. Une vie corrompue, noircie par la souffrance, la peine, sous le couperet d'une mort latente, privée de la vie éternelle, la vie sans fin. On est à la fin du chapitre 3. Chapitre 4, toujours la même dynamique, l'être humain s'enfonce dans la rébellion, et puis son résultat, rupture avec Dieu, souffrance, violence, mort. Vous avez comme ça plusieurs histoires, et puis Au milieu de ce tableau, vous avez quelques étincelles où on voit qu'en fait l'être humain il regarde en arrière, il regarde ce qu'il a perdu, il regarde à ce créateur. Vous avez Caïn et Abel, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une offrande. Seth et son fils aussi. Le texte dit « C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Et puis Enoch, il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Et puis on n'a plus de traces. On n'a plus de traces jusqu'à chapitre 6. Noé. Donc ce soir, c'est le plaisir de Dieu. C'est sa grâce. Pourvu que celui qui voit son péché lâche prise. Premièrement, croire à la solution de Dieu. Lisons ensemble donc chapitre 6, Genèse chapitre 6, c'est d'être à la page 6 de vos Bibles. Verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre, dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Tout le monde. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. » Croire à la solution de Dieu. Vous avez un petit dessin où on voit un monde plein de violence, plein de mal. Et puis une personne au milieu, Noé, qui sort du lot, entre guillemets, qui regarde ailleurs, qui croit à autre chose. Croire à la solution de Dieu. Tout d'abord, Noé, il est conscient du péché. Noé est conscient de ce que Dieu avait révélé. Dieu a révélé le but de son existence. Visiblement, Noé avait une certaine relation avec le Créateur. Il marchait avec Dieu. Et il devait savoir ce que Dieu a révélé parce qu'il est décrit comme quelqu'un qui était juste. Il devait savoir du coup que son but était de remplir la terre des valeurs et des qualités de Dieu. Il devait savoir aussi que l'être humain a raté le but de son existence. Et c'est ça le mot péché, rater le but. Noé savait que la créature était entachée de péché. Et ensuite, enfin, Noé était conscient de ce que méritait le péché. Dieu lui explique qu'il dresse un tableau triste de l'humanité, du monde, et qu'il veut effacer ce tableau. Voilà la conséquence du péché. Donc, conscient du péché. Deuxièmement, Noé avait la foi dans une solution. Et regardez ce verset 13 qui est un condensé, il est magnifique. Verset 13, c'est « Je vais les détruire avec la terre ». Je vais les détruire avec la terre. Et 14, fais-toi un bateau. Que savait Noé de la solution que Dieu apporterait au problème de sa créature? Pas grand-chose, en tout cas, on n'a pas beaucoup d'infos dans la Bible. Toujours est-il qu'à ce moment précis, en fait, tout ce qu'il savait Noé, c'est qu'il était possible pour lui de s'accrocher par la foi à une promesse de salut. Il y a ce que Dieu a prévu pour les humains, à cause du péché, et il y a ce que Dieu a prévu pour moi. Et je peux m'y accrocher et y croire. Il y a donc deux parties, savoir, croire. Noé, pour qu'il trouve grâce aux yeux de l'Éternel, c'est écrit comme ça, en fait, il dirigeait sa vie au-delà d'un simple savoir. Il ne voyait pas en fait les choses qu'il espérait. Il espérait des choses qu'il ne pouvait pas avoir. Il espérait retrouver une relation perdue. Il espérait retrouver un jardin d'Éden quelque part. Et il ne le voyait pas, c'était impossible. Par contre, il y croyait, il l'espérait. Ok ? Donc c'est plus que savoir. Et le Nouveau Testament, dans Hébreux 11, au verset 7, quand il parle de Noé, qui fait un petit retour sur qui était Noé, comment était sa foi, eh bien, il explique que Noé croyait en fait à la solution de Dieu. Et c'est précisément parce qu'il croyait, à cause de sa foi, grâce à sa foi, que Dieu le voyait comme juste. Okay ? Donc Noé savait, mais Noé croyait aussi. Ensuite, saisir la solution de Dieu. On va continuer la lecture. On en était au chapitre 6, verset 14. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux, etc. Ensuite, il y a une description des dimensions de cette arche. Et puis, verset 17. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche. Ensuite, il est parlé de la famille, des animaux, des provisions à faire entrer dans l'arche. Verset 22, c'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Chapitre 7, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Ensuite, il a encore parlé des animaux qui rentrent dans l'arche. En effet, encore 7 jours et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours, 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche. Saisir la solution de Dieu. Vous avez Noé dans son monde plein de violence, qui, voilà, il a construit sa petite coquille, son arche. Il rentre dedans, il la saisit. On va développer cet aspect. Pour Noé, c'était quoi saisir ? C'était d'abord obéir. Obéir, construire l'arche, et ensuite entrer dans l'arche. Hébreux 11, verset 7, dit texto ça en fait. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Et le texte est aussi fait comme ça, hein, verset 14, « Fais-toi une arche », et puis au verset 22, « C'est ce que fit Noé ». Noé construit l'arche, en fait, il saisit la solution en obéissant. Et ensuite, il y entre. Verset 17, « Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi, deux points, tu entreras dans l'arche. » Et au chapitre 7, verset 1, Dieu dit « Entre maintenant dans l'arche, car je t'ai vu comme juste devant moi dans toute cette génération, parce qu'en fait, il avait construit cette arche. » Au début du chapitre 7. Et chapitre 7, verset 7, Noé, du coup, entre dans l'arche. C'est le moment où il rentre. Comme quand vous êtes pendu, quand vous avez votre baudrier, là, et que vous voulez descendre en rappel, à un moment donné, eh bien, vous lâchez prise, parce que sinon, ça ne marche juste pas, quoi. Vous lâchez prise, et vous pouvez descendre. Ce moment-là où Noé rentre dans l'arche, c'est ce moment où il lâche prise, il s'abandonne à la solution. Ok ? Lâcher prise. On va continuer la lecture, chapitre 7, versets 7 à 24. Donc Noé entra dans l'arche. Ensuite, la famille entre aussi, les animaux, etc. Au verset 11, « L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du deuxième mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. » C'est ce jour-là précisément que Noé, Sem, Cham, Japhet, les fils de Noé, la femme de Noé, les trois femmes et de ses fils avec eux, étaient entrés dans l'arche. Ensuite, une description encore des animaux qui entrent dans l'arche, je reprends au verset 16. Il en entra mâle et femelle de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours. L'eau grossit, souleva l'arche, et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta, il grossit beaucoup sur la terre, et l'arche flotta à la surface de l'eau. Ensuite, une description de tout ce qui est englouti, le monde qui disparaît. Et verset 23, Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Lâchez prise. Faisons une petite plongée dans la vie de Noé à ce moment-là, dans l'arche. Noé vient de refermer, de voir cette porte se refermer derrière lui dans l'arche. Alors essayez d'effacer dans vos cerveaux, dans vos mémoires, l'image de l'arche avec les planches de bois, la petite cabane dessus, la petite maison avec les petites fenêtres et les deux girafes avec leur cou comme ça. Hein. Le texte nous dit que c'est une caisse. Une caisse, le même mot en fait, au même titre que la caisse dans laquelle le bébé Moïse a été mis dans le Nil, ou le même mot que l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire que c'est vraiment un caisson, sauf que là c'est un gros caisson, d'accord ? Un caisson en bois, en roseau ou en quoi que ce soit, enduit de pétrole, en fait, de pétrole brut, dehors, dedans, pour que ce soit étanche. Et voilà, c'est ça, l'arche, d'accord ? Noé vient de rentrer dedans, il y a tous les animaux, il y a sa famille, la porte se referme derrière lui. Et puis les premières gouttes, de plus en plus fort, le bruit sur le toit de l'arche, peut-être des cris dehors. Les jours qui passent, Dieu parlait de 40 jours. 40 jours, ok, il va falloir attendre 40 jours. C'est long, 40 jours. Et puis tout à coup, oh, l'arche a bougé. Ça veut dire qu'on flotte. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours. L'eau grossit, souleva l'arche et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre et l'arche flotta à la surface de l'eau. 40 jours. 41 jours. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ah ben, il ne se passe rien. La pluie s'arrête, mais c'est le silence. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Et maintenant, Dieu n'a rien dit en fait sur la suite. Qu'est-ce qui va se passer après ? Voilà, vous avez votre Noé dans sa coquille, dans son arche. Le monde d'avant est jugé. Il est englouti, détruit. Noé subsiste avec sa famille. Hein. C'est un dessin schématique, vous aurez compris. Noé survit, mais il est en suspense. Okay ? C'est cela, en fait, accepter la solution de Dieu. Croire, et en fait, c'est paradoxal, hein, mais saisir tout en lâchant prise la solution de Dieu. Okay ? Peut-être que vous êtes ici parce que la foi en Dieu vous intéresse, dont vous êtes venu. Peut-être est-ce que vous trouvez pertinent cette vision de la Bible qui dit ce que l'homme rate dans son essence, que l'homme a un but dans son existence, mais ce but est raté. Et vous envisagez aussi de donner du crédit à ce que la Bible présente de Dieu, un Dieu qui n'accepte pas cette imperfection, mais en même temps un Dieu qui fournit, qui donne une solution. Ok. Peut-être vous avez compris que la Bible, elle expose cette solution, elle est là pour exposer cette solution que Dieu donne à l'humanité, l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ qui meurt sur une croix et qui porte le jugement de l'humanité sur lui. Ok. Eh bien, le récit de Noé présente cette démarche à suivre pour accepter la solution. Cette démarche, en fait, qui tout au long de la Bible est reprise et développée. C'est une démarche qui veut de tout d'abord croire, et ensuite saisir. Et saisir comment ? Saisir en lâchant prise. Peut-être que nous sommes ici aussi parce que la force est devenue une habitude. Nous sommes chrétiens, nous pensons qu'il n'est plus nécessaire en fait d'accepter une solution de Dieu parce qu'on l'a acceptée, ça y est, c'est fait. Nous chantons la solution de Dieu, l'évangile, tous les dimanches. Nous remercions Dieu pour sa solution peut-être tous les jours. Mais est-ce qu'on vit cette solution pratiquement dans notre vie quotidienne? Cette démarche de Noé, en fait, elle est vraie aussi dans chacun des détails de notre vie de chrétien. Quand on a des problèmes relationnels, par exemple, qu'on s'est embrouillé avec un collègue, ça passe plus, il m'a fait du mal avec mon conjoint, avec mon coloc. Et puis pour ce coup-là, c'est vraiment de sa faute, c'est vraiment lui qui me fait du mal. Là je suis vraiment sûr. Okay. En fait, cette démarche, c'est la même. C'est croire. C'est quoi croire dans cette situation, par exemple? C'est croire qu'il y a une solution. Il y a une issue. Et Dieu est cette solution. Et ensuite, saisir. Obéir, c'est... On n'a pas d'arche à construire, on est d'accord. Mais peut-être ici, l'élan d'obéissance, c'est peut-être simplement prier avec foi. Faire cet élan de communication envers Dieu. Et puis surtout, entrer dans l'arche, accepter la solution. Comment? En lâchant prise. Abandonner. Accepter ce qui m'arrive, accepter que je ne vaux pas mieux, accepter que le monde dans lequel je vis est corrompu, que je ne suis pas parfait, que mon coloc ou mon conjoint n'est pas parfait non plus. Et j'abandonne ma soif d'auto-justice, j'abandonne mes attentes. Comme quand je m'assois dans le baudrier, eh bien, c'est saisir la solution pour descendre la paroi sans me tuer, en fait. Eh bien, lorsque je m'abandonne à la corde, la corde se souvient de moi. Et c'est ces mots que le texte ajoute à la suite du récit. Dieu se souvint de Noé. Je propose de fixer ces mots dans votre esprit. À cet instant précis du récit, Dieu se souvint de Noé. On fait une petite pause. On va chanter un chant et on reprend tout à l'heure.
Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.
Je vais continuer. Le chapitre 8, donc, verset 1. Dieu se souvint. Trois petits mots. Trois magnifiques mots. En fait, d'une manière littéraire, comme beaucoup de textes de l'Ancien Testament, ils étaient construits de manière un peu symétrique. Et vous avez, dans une symétrie, un centre. Et ce centre-là, dans ce texte, c'est Dieu se souvint. Il y a un avant. Il y a un après. Et là, c'est le moment de la grâce. Ce moment de la grâce, il intervient quand dans l'histoire ? Il intervient quand la charge de la faute est payée, le jugement a eu lieu. Le poids de la faute est purgé, la colère de Dieu s'est exprimée. Et ce moment de la grâce, il ouvre vers un nouveau monde, une nouvelle vie. Il y a un avant et un après. Chapitre 8, verset 13, super. Donc, verset 13, on va continuer la lecture, 13 à 19. Donc Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Ensuite, la décrue est racontée. Et puis au verset 13... L'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre. Noé retira le toit de l'arche. Il regarda et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du deuxième mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé. « Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce, etc. etc. » Donc toute la famille et les animaux. Si on se replonge dans l'arche, à ce moment-là, Noé voit que l'eau se retire. Il a senti l'arche s'échouer, elle s'est arrêtée, il y a eu les différents oiseaux avec la colombe et le rameau d'olivier, etc. Maintenant, Noé enlève le toit. Il voit le monde dans lequel il va être appelé à débarquer. Ok ? Mais il ne sort pas tout de suite. Vous avez déjà remarqué ça ? Il ne sort pas tout de suite. Il y a encore 3 mois qui se passent. Noé est dans son arche. Il voit l'extérieur, mais il ne sort pas. Il se projette, forcément. Le monde qu'il connaît, c'est quoi ? La vie qu'il connaît, c'est quoi ? C'est un monde déchu, corrompu, violent. Il a entendu parler du jardin d'Éden, etc., etc. Il espère quelque chose, mais il ne le voit pas. Aujourd'hui, le toit n'est plus là. Ce qu'il voit dehors, c'est un monde à découvrir, à repeupler. Ce qu'il sait, c'est que avant, c'était la violence, la corruption. Après, c'est la possibilité de marcher avec le Créateur, transmettre et faire briller ses valeurs, remplir le but de son existence. Jouir de la solution de Dieu. Un avant et un après. On peut se poser la question, pourquoi en fait avoir sauvé Noé et nettoyé le monde, si ce n'est pour qu'il en jouisse conformément au but de son existence ? Aussi, pourquoi est-ce que y a tant d'insistance sur le règne animal ? Pourquoi tous ces animaux, on n'a pas lu le texte, hein, mais ils sont souvent cités, si ce n'est pour insister sur le fait que Noé va débarquer dans un environnement privilégié, reconstruit ? Après 3 mois d'attente, chapitre 8, verset 16, Dieu dit « Sors de l'arche ». Notre fils Abel, il va avoir 3 ans, et quand On l'a amené à l'escalade il y a quoi, il y a quelques semaines. Et il était tout content parce qu'on en avait beaucoup parlé. Et du coup, et voilà, c'était trop bien, l'escalade. Donc une salle avec des prises, hein, vous voyez, adaptée aux enfants. Hein, faut pas avoir peur. Et ben du coup, voilà, c'est super. Il a pris son baudrier. Alors pour les enfants, c'est un harnais hein, avec les épaules et tout. Enfin bref. Il a commencé à grimper, super, trop bien. Puis voilà, il commence à monter haut, on n'arrivait plus à le toucher, il était vraiment haut. Puis ça y est, Abel, tu peux descendre. Voilà. Bon bah ouais, comment quoi? Bah vas-y, assieds-toi dans le baudrier. Mais non. Et puis voilà, c'était fini, c'était l'angoisse totale. Eh bah oui, c'est pas naturel de lâcher prise, de se laisser aller. Mais alors du coup, bon, il a fallu aller le chercher, le redescendre. Et après, j'essaie de le rassurer, de le familiariser avec ce baudrier dans lequel il avait peur de s'asseoir. Et bah, je l'ai pris comme ça, par le crochet, et puis on a fait l'avion. Et il était tout content. Il jouissait en fait de ce baudrier. Okay, et quand vous descendez en rappel, c'est pareil. Hein, en fait, vous avez peur, mais une fois que vous êtes dedans, ben, c'est génial. Vous descendez, vous rebondissez sur la paroi comme ça. Vous jouissez en fait de ce qui se passe. Est-ce que le chrétien est sauvé pour jouir de sa vie? Prenons le temps aussi de faire un recul sur ce qui se passe avec Noé. Dieu n'avait pas dit à Noé qu'après les 40 jours de déluge, il y aurait une suite, en fait. Enfin, en tout cas, le texte ne nous raconte pas que Dieu a expliqué à Noé qu'est-ce qui va se passer après. Et il aurait pu aussi... Simplement, bah voilà, la vie après, bah c'est l'arche, quoi. Donc vous allez avoir des enfants et vous allez peupler l'arche. Et les animaux vont avoir des enfants, ils vont peupler l'arche. Et puis dans 400 ans, un millénaire, les gens vont dire « Jadis, il y avait un monde au-delà de l'arche. » Non, c'est pas vrai, c'est un mythe. Ben non, Dieu a prévu une suite. Dieu a prévu que Noé sorte de l'arche pour qu'il puisse en jouir. Comme Noé qui pouvait à présent prendre plaisir dans une vie à l'honneur du Créateur, Dieu veut que le chrétien, que nous prenons du plaisir dans une vie à l'honneur du Créateur, remplir le but de notre existence en fait. Honorer la solution de Dieu, ce fameux plaisir de Dieu. Regardez l'écho qui s'installe entre ces deux extraits, celui qu'on a lu tout au début, chapitre 6, verset 5. « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal, etc. » L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Et puis là, chapitre, on en est où là ? 8, versets 20 à 21. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable. Vous voyez cet écho, cette symétrie ? Le mot hébreu ici pour agréable insiste en fait sur une émotion dynamique qui veut que auparavant en fait il n'était pas satisfait, pas calme, pas tranquille, et là maintenant ça y est, il y a plénitude, il est contenté, content ou contenté. Et entre les deux, eh bien le péché a été terriblement jugé, et en même temps la créature a baissé les bras, elle a lâché prise pour que la grâce de Dieu agisse. Ok? Jugement et grâce, et ensuite l'expression du gracier. Le verset 21 dit « L'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. » Noé sort, il offre un holocauste, mais ensuite Dieu constate quoi ? L'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Ça n'a pas changé. Mais par contre, obéissant, Noé exprime sa reconnaissance. Verset 20, Noé construisit un autel. C'est l'aboutissement du cheminement de Noé, en fait. Noé a cru, saisi, baissé les bras, reçu la grâce, il a commencé à en jouir, et maintenant il veut honorer cette grâce, ou plutôt celui qui l'a offerte. Et le plaisir de Dieu, là, le plaisir, entre guillemets, de Dieu, vient de la conséquence de sa grâce à lui, okay ? Sur le cœur de Noé, de l'être humain. Lisons la suite. Chapitre 9, versets 6 à 17. «
Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Tiens, ça vous rappelle quelque chose ? Verset 7. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Ensuite, Dieu dresse une alliance avec l'homme. Verset 11. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre, etc. Alors, ce plaisir, entre guillemets, de Dieu n'est pas souligné face à une seconde chance. C'est ce qu'on pourrait se dire en lisant l'histoire de Noé. C'est une seconde chance à l'homme. Pas vraiment. C'est plus que ça, c'est autre chose. Non, la donne n'est plus la même. Alors oui, il y a deux choses qui n'ont pas changé. On l'a lu, on en a parlé. C'est la créature est toujours dans le péché, c'est un fait. Et le but de l'homme est toujours le même, on l'a lu tout à l'heure. C'est le même que dans chapitre 1. Dieu a fait l'homme à son image, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Mais regardez juste avant. Les versets 2 à 6. Dieu installe en fait quelque chose de très intéressant. On n'a pas tout lu, mais c'est très intéressant sur le prix d'une vie, le prix du sang. Quelque chose qu'il n'avait pas dit jusque-là. Et ça prendra, ça, petit à petit dans la Bible, la couleur en fait du sacerdoce hébreu, dans tout ce qui est avec les, vous savez, les sacrifices des juifs de l'époque qui eux-mêmes annoncent en fait le sacrifice ultime de Jésus sur la croix. Et en fait, c'est comme si cette seconde chance, entre guillemets, de l'homme était perdu d'avance. Dieu le constate, Dieu le sait. Mais Dieu prépare la solution. Comme si Dieu disait, non, je ne frapperai plus les pécheurs par un déluge. Je frapperai un jour mon Fils unique de toute ma colère. Le lecteur de la Bible commence en fait à comprendre que Dieu met en place une solution éternelle qui se précisera avec Christ. Noé, même lui, pouvait déjà espérer que Dieu avait une solution, même si c'était flou pour lui. Il pouvait comprendre que son arche préfigurait une autre solution, bien plus puissante et efficace pour tous les temps. Et en fait, aujourd'hui, nous pouvons voir avec la Bible dans sa globalité, et puis avec nos 2000 années de christianisme derrière, on peut voir ce Jésus-Christ qui offre sa vie, son sang pour tous les êtres humains. On voit que cette solution, c'est Jésus-Christ, on le sait, c'est clair avec notre Bible. Pour tous les êtres humains qui croient, qui saisissent, qui jouissent et qui honorent la solution de Dieu. Dernier petit clin d'œil. Vous voyez sur l'image, vous avez votre Noé avec les autres petits bonhommes. Et ben, il est entouré par un arc-en-ciel. Au-delà de cet arc-en-ciel, tout est beau, tout est parfait. Sous l'arc-en-ciel, vous voyez qu'il y a un peu des trucs bizarres qui se passent. Hein ? Ça n'a pas changé, ça. C'est super intéressant ce qu'on lit là avec l'arc-en-ciel. En fait, vous vous rendez compte que quand vous regardez un arc-en-ciel, regardez ce qui est écrit. L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle. Je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants. En face d'un arc-en-ciel, Dieu sait que notre cœur est mauvais, mais il ne nous détruit pas. C'est ça le message de l'arc-en-ciel. Il nous fait grâce. Quelques réflexions pour finir. On a vu, le Créateur est allé d'un cœur peiné vers le cœur contenté. Et entre les deux, lâchons prise pour laisser la grâce de Christ agir à son honneur. Peut-être une autre réflexion, si vous êtes ici et que vous vous posez des questions par rapport à la foi, ce texte, il explique beaucoup de choses. Même si c'est un texte très vieux et qui parle d'une époque très lointaine, il explique déjà énormément de choses par rapport à la foi chrétienne. Si tu n'as pas lâché prise et que tu n'es pas rentré dans l'arche de Jésus-Christ, eh bien n'attends plus, parce que nous le croyons, ton déluge viendra, le jugement viendra, n'attends plus. Tu verras, la corde se souviendra de toi. Amen.